Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Le débat des grandes voix, chaque samedi, chaque dimanche, c'est votre rendez-vous jusqu'à 19h. L'actualité passée au crible avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, et Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du journal Le Parisien. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une gauche unie pour la présidentielle de 2022. Possible ou impossible, une nouvelle tribune appelant à une candidature commune est publiée aujourd'hui, co-signée par un millier de personnes, des élus verts, insoumis, d'anciens socialistes. Ça ressemble un petit peu à l'arlésienne, cette union, souvent souhaitée, jamais atteinte. Est-ce que ça peut changer cette fois-ci? Pourquoi ou pourquoi pas? Vos analyses, on en débat. Aux États-Unis, Donald Trump pense ne plus être contagieux sans pouvoir affirmer qu'il a été testé négatif au coronavirus. Interview confuse sur sa santé la nuit dernière et il reprend sa campagne avec une réception dès ce soir à la Maison-Blanche. Votre regard à suivre, chère grande voix, sur cette campagne présidentielle américaine dont les dernières semaines s'annoncent toujours plus incertaines.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Mais d'abord, comme chaque week-end, en guise d'entrée en matière, vos coups de cœur, vos coups de blouse ou vos coups de griffe, Laetitia Krupa, votre coup de cœur ce soir, je crois qu'il s'adresse à une des ministres du gouvernement.
Oui, le coup de cœur pour le chemin de croix de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologiste, qui a passé sa semaine à enchaîner les plateaux pour expliquer que non, elle ne retournait pas sa veste. Non, elle n'avalait pas son chapeau au sujet des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles qui protègent, entre autres, les betteraves de la jaunisse. C'est elle, Barbara Pompili, qui en 2016 s'était battue alors qu'elle était secrétaire d'État à la biodiversité pour faire interdire ces pesticides et la patatras. L'Assemblée nationale fait machine arrière, conséquence directe, coup de projecteur sur Madame Pompili, qui évidemment a été confrontée toute la semaine à chacune de ses interviews, à ses propos enflammée d'il y a 4 ans. Et elle a trouvé la parade, hein, Barbara Pompili, parce que elle nous explique quoi? Elle nous explique que non, elle ne se trahit pas, car il s'agit juste cette fois d'une autorisation à déroger à la loi pour un secteur particulier.
Ponctuel et précis.
Ponctuel, temporaire. Et qu'en fait, si on l'avait écouté, on aurait pu s'en passer si le secteur avait un peu bossé le sujet.
Et s'était préparé avant.
Et avait trouvé une alternative à ces néonicotinoïdes. Mmh. L'argument s'entend, mais est-ce que le message est passé? Est-ce que Barbara Pompili n'est pas définitivement taxée de spécialiste de retournement de veste? Parce que vous le savez, Théo, qu'en communication politique, quand on a une affirmation forte, avec une image forte, pour s'en décoller après, même si l'argumentaire tient la route, c'est très compliqué. Donc, la suite, on le verra bientôt. Très bientôt, il me semble.
Et on va la suivre, évidemment. Merci, Laetitia Krupa. Philippe Moreau-Chevrolet, coup de cœur, je crois, pour vous aussi.
Oui, coup de cœur pour la revue politique et parlementaire qui vient de publier son dernier numéro qui s'intitule « Une crise sans fin » consacrée à la crise sanitaire. Alors c'est une revue à l'ancienne qui existe en numérique mais qui fleure bon le papier, dont les collaborateurs sont bénévoles, dirigée par Arnaud Benedetti. Donc c'est une revue qui explore ce mois-ci la crise sanitaire sous un angle un peu original sur le thème notamment du déni. Et le déni, c'est quoi par rapport à la crise sanitaire? Eh bien, c'est le point commun qu'il y a entre Bolsonaro au Brésil, Johnson en Grande-Bretagne, Trump aux États-Unis et Macron en France, dans des styles différents. Ça consiste à nier au début la réalité de l'épidémie et aussi sa dimension sanitaire, pour parler d'autre chose, pour parler de guerre, pour parler d'affrontements entre les démocrates et les républicains quand on est Donald Trump, mais ça n'est jamais vraiment un virus qu'on combat, c'est autre chose. Ça explique notamment le point commun à tous ces pays qui sont le refus du masque au départ et puis finalement son adoption, mais très très réticente par les chefs d'État. Dans le cas de Bolsonaro, Johnson et Trump, il y a eu des conséquences plus dramatiques puisque les trois présidents ont été atteints du Covid et que le dernier est toujours atteint du Covid. Et
puis, ça est aussi...
Oui, aux dernières nouvelles, et on va en parler, mais ça explique aussi le refus de la distanciation. Hein. On sait que jusqu'au bout, Donald Trump, alors que probablement il se savait déjà malade, il a enchaîné les événements, donc il y a un événement super spreader, comme on dit, qui a beaucoup répandu le virus. Et il y a des séquelles de tout ça, puisqu'on voit que les hommes politiques ont vraiment, vraiment du mal à accepter finalement cette épidémie. Donc Frédéric Vidal, la ministre aux universités, qui réunit cette semaine tous les présidents d'universités de la région Aquitaine, sans masque, alors que les universités sont parmi les plus gros clusters en France.
Et qu'on leur demande de vider leurs amphis de moitié.
C'est ça. Donc là, ils se réunissent sans masque. Alors, il y a des assiettes devant eux. Donc, la réponse de la ministre, c'est oui, mais on allait manger. D'accord, mais ça n'empêche pas que c'est une réunion politique qui dure 3 heures et qu'on est dans un espace clos et voilà, et que ce sont des présidents d'université. Roxa Maracineau, qui est la ministre au sport, a légalisé le MMA. C'est un sport de combat extrêmement violent. Alors, personnellement, moi, j'ai rien contre. Je suis fan de boxe anglaise. Pas de souci. Sauf que elle a légalisé tout ça dans un amphi surchauffé avec 1000 personnes sans distanciation et que les sportifs sont venus lui faire littéralement des gros câlins. Donc ouais. C'était c'est évidemment pas la séquence qu'on souhaitait voir. Et pour finir cette semaine, parce que chaque semaine apporte son lot de bêtisiers, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre du Tourisme, qui dit qu'il est urgent de partir en vacances. Donc à un moment où on a quand même 20 000 contaminations par jour, une mortalité qui monte, des hôpitaux qui sont au bord de l'apoplexie alors qu'on ne fait que commencer la crise, c'est un petit peu embarrassant. Alors pourquoi ? Parce qu'il serait intéressant de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Eh bien probablement parce qu'ils ont du mal, aussi bien dans la crise climatique que dans cette crise sanitaire, à accepter que la nature, parfois, impose sa volonté aux politiques. Ils ont du mal à accepter que finalement c'est elle qui décide quelque part de la suite des événements. Ce sont des leaders qui, plus la défiance augmente, plus ils vont essayer de vendre de la volonté ou de survendre de la volonté. Mmh. Et là, il faut avoir de l'humilité par rapport à la nature et nos hommes politiques ne sont pas vraiment équipés pour ça. Alors peut-être qu'il serait temps, Théo, d'écouter la nature, tout simplement.
Et puis de prendre un petit cours peut-être en communication politique, parce qu'effectivement, en termes d'affichage, tout ça n'est quand même pas fameux. Yannick Halimi, on termine avec vous cette première partie. Vous, c'est un coup de gueule ce soir, Yannick.
Oui, alors plus rapidement, et un coup de gueule également qui a un lien avec la crise sanitaire, c'est l'autorisation donner à des évangélistes de se réunir ce week-end à 600 ou 700 pour finaliser une démarche administrative qui est la leur. Alors que les choses soient claires, je n'ai évidemment aucune volonté de stigmatiser les évangélistes en tant que tels. Le problème, c'est que le maire de la petite commune
de Neuvois dans le Loiret,
exactement dans le Loiret près de Montargis, a appris ce rassemblement par une lettre, un courrier envoyé par le sous-préfet qui n'était pas au courant et que lui, à qui on dit de mettre en pratique et de faire respecter des mesures de réunion publique ne dépassant pas la jauge d'une cinquantaine de personnes de mémoire, en tout cas ce qui concerne son territoire, évidemment, est tombé de sa chaise. Donc,
quand il a appris qu'on avait 1000 personnes sur un terrain
1000.
Privé.
Bon, j'avais et donc, un peu moins de 1000. Alors, les justifications de la préfecture et des organisateurs de ce rassemblement, c'est de dire que, un, ce n'est pas dans un espace public.
C'est donc, un terrain privé qui appartient à une association.
C'est un espace privé qui appartient à une association. Et deuxième élément, encore bon, qui est peut-être plus saugrenu, c'est que cette manifestation, comme je vous le disais, avait un lien avec une démarche administrative au sein de l'association. L'autre argument juridique qui se veut fondé de la part du préfet, c'est de dire que ce rassemblement n'avait pas une cause festive. Mmh. Donc, fermer le banc. Apparemment, là, ça compte première problématique, et je passe à la seconde très rapidement. Il y a une sorte de lisibilité tout de même des règles sanitaires qui semblent un peu compliquées
là
à exercer
flou,
pour
oui.
L'œil moyen que nous sommes tous, y compris, semble-t-il, pour le maire de la petite commune. Mmh. Et deuxièmement, cela prouve aussi entre les relations entre le maire, le sous-préfet et le préfet, que là, encore une fois, on touche un des points névralgiques de la crise sanitaire au-delà de la santé, de l'économie et du social. C'est le fonctionnement administratif, le fonctionnement de des institutions publiques, des relais entre l'État et les élus locaux, les relais dans les administrations, dont il va bien falloir tirer les leçons, parce que une des raisons pour laquelle la France a un si mauvais bilan, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, c'est quand même cette superposition et cet aspect kafkaïen de l'administration française.
Qui ne correspondent pas toujours très bien entre eux. Et on est dans un département, en plus, hein, le Loiret, effectivement, qui est en zone rouge. À suivre, à 18h42, les figures de la gauche arriveront-elles à se ranger derrière une candidature unique en 2022 ? C'est donc ce qu'appellent de leur vœu 1000 personnalités dans une tribune aujourd'hui. Le serpent de mer peut-il finir par prendre corps ? Pas sûr, on en débat avec vous, les grandes voix du week-end, dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Ils partagent avec nous leur analyse et leur point de vue. Nos grandes voix du week-end ce soir, Yannick Halimi, Laetitia Krupa et Philippe Moreau-Chevrollet. L'union de la gauche, chère grande voix, C'est un serpent de mer, un vœu pieux jusqu'ici qui revient avec plus ou moins d'insistance, plus ou moins entre chaque présidentielle, encore plus depuis 2002. Et avec donc cette tribune publiée aujourd'hui, signée par 1000 personnes, militants, activistes, entre autres l'économiste Thomas Piketty, la députée France Insoumise Clémentine Autain, d'anciens socialistes, des écolos comme la maire de Marseille Michel Rubirola, souvent souhaitée dans des appels jamais réalisés. Est-ce qu'il y a plus de motifs ou de chances qu'elle se concrétise cette fois-ci, Laetitia Krupa ?
Ça fait tellement longtemps que le terrain est sinistré, que la gauche laisse un boulevard au pouvoir d'Emmanuel Macron, hein, parce que la droite, elle aussi, a complètement implosé, que oui, pourquoi pas. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas du tout, une tribune voilà, comme ça, 1000 personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont envie d'exister, qui ont envie de renverser un peu la vapeur et de revenir dans le jeu politique. Oui, enfin, c'est tout à fait normal, mais j'ai envie de vous dire, et après ? Enfin, et après, est-ce qui va pouvoir incarner cette, voilà, cette proposition à gauche ? Jean-Luc Mélenchon, on a compris qu'il se lançait, il fait un peu d'appel du pied, hein, on l'a vu hein, dans ses différentes interviews là, dernièrement, aux écolos, aux socialistes, il leur a écrit pour essayer de trouver des compromis, mais est-ce qu'il a vraiment envie et est-ce que les électeurs de gauche trouveront en Mélenchon une figure comme ça qui rassemble, qui fédère tout ce camp qui est vraiment très disparate. Moi, vraiment, pour le moment, c'est un vœu pieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste légitime. J'attends de voir.
Il leur a écrit, Jean-Luc Mélenchon, et il appelle à, effectivement à ses alliés de gauche. Mais aujourd'hui, Jeannick Halimi, dans une interview à nos confrères de BFM TV cet après-midi, il enterre carrément cette union en disant que c'est impossible, que ça ne se fera jamais.
C'est pas étonnant. Vous disiez quelle est la différence aujourd'hui d'avec hier. Alors, je remonterai peut-être pas à 2002, mais tout simplement à 2017, hein, qui est la dernière élection présidentielle. Vous parliez d'un serpent de mer. Je pense que le serpent de mer est devenu une hydre de mer, parce que je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais peu importe.
On voit l'image.
On voit l'image, voilà. Il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs tentacules. Il faut que je fasse attention avec mes bras, moi.
Aux parois en plexiglas dans ce studio, mais effectivement.
Ouais. Pardonnez-moi, parce que depuis 2017, donc, il y a un parti, ça ne vous aura pas échappé, qui a grossi. Et la tête de certains leaders de ce parti également, si je puis dire. Mais ça, c'est un peu méchant et je ne le pense pas vraiment. En tout cas, il y a des candidats potentiels. Je veux parler bien sûr du parti écologiste, Europe Écologie Les Verts.
De Yannick Jadot et d'Éric Piolle.
Très rapidement, en 2017, le parti s'était plus ou moins éclaté. Certains avaient rejoint Emmanuel Macron, d'autres avaient rejoint le candidat socialiste de l'époque, qui était encore socialiste, Benoît Hamon. Donc, il y a un élément de plus qui suscite la disparité et l'éclatement et l'éparpillement en puzzle, comme on dit, de la gauche. Mais au-delà de ça, ou en plus de ça, il y a toujours des éléments, comment dire, structurels, en plus de, ce que, l'émergence du Parti Vert, c'est qu'entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et maintenant les Verts, il n'y a pas de plateforme commune, mais pourquoi pas ? Il y a surtout des clivages idéologiques profonds. Comment voulez-vous qu'un parti qui est... Alors moi, je dis anti-européen, les insoumis disent non, on veut changer l'Europe. Il n'empêche qu'ils sont extrêmement eurosceptiques et certains très europhobes et qui sont contre la social-démocratie par définition. Pour les insoumis, comment voulez-vous qu'ils tendent la main à la plus grosse partie, en tout cas, du Parti socialiste, même si certains socialistes ne veulent pas encore s'intituler sociodémocrates. La France insoumise ne veut pas tendre la main au Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, s'il reste dans la foulée de François Hollande, comme ils disent. Premièrement, les écologistes sont, eux, européens, donc même question, comment voulez-vous qu'ils tendent la main et qu'ils s'entendent avec les insoumis. Et il y a, entre les trois partis et même à l'intérieur des partis, des fissures et des différences sur les problèmes sociétaux. Je n'en prendrai qu'un. Je veux parler du communautarisme ou de la laïcité. Le PS n'est pas au clair avec ça. Les écologistes ne le sont pas. La France insoumise, à la limite, l'est peut-être un peu plus, mais de façon extrêmement différente, voire divergente d'avec au moins le Parti socialiste. Tout ça fait que, idéologiquement, c'est compliqué. Stratégiquement, on voit que les uns les autres, la greffe ne peut pas prendre.
On va y revenir, mais donc il y a des différences, il y a des guerres d'ego.
Et il y a des guerres de chefs qui, effectivement, commence déjà à se manifester.
Jean-Luc Mélenchon dit dès cet après-midi que cette union est impossible. François Hollande dit faisons le programme d'abord, mais que ça lui semblait aussi compliqué. Olivier Faure au PS plaide pour une candidature unique à gauche, mais on a un peu l'impression que c'est à condition que ça soit la sienne. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a quand même des précédents très récents qui montrent qu'au niveau local, ça peut fonctionner. Les dernières municipales ont vu des listes d'union qui ont permis à la gauche et aux écolos, pas tout seuls, mais de s'unir et de remporter des grandes villes comme Bordeaux, comme Marseille.
Oui, bien sûr, évidemment. L'union est possible au niveau local parce que c'est un tout petit peu plus simple. D'abord, il y a une personnalité, Rubirola par exemple, qui se détache, qui est une personnalité qui est un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, au-dessus de ces problématiques-là, qui va jouer sa propre corde, un peu populiste, en tout cas proche des gens, et qui arrive à renverser la vapeur. Ce qui manque précisément dans le débat actuel à gauche, c'est une personnalité qui ose, c'est-à-dire qui soit suffisamment agressive, suffisamment volontaire pour arriver d'une part à enterrer le bilan de François Hollande, c'est-à-dire à expliquer ce qui n'allait pas dans la gauche du gouvernement récemment, ensuite à être suffisamment radical pour neutraliser Mélenchon qui fait peut-être le combat de trop quand même, hein. c'est quand même sa quatrième, cinquième, je ne sais plus, candidature.
Est-ce que c'est personnalités, pardonnez-moi Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est des personnalités qui osent, qui manquent à la gauche, ou c'est au contraire des personnalités humbles et qui osent se rallier derrière quelqu'un d'autre qui manque à la gauche aujourd'hui?
Alors, s'affirmer en politique, c'est pas forcément avoir un ego boursoufler, ça peut aussi être avoir l'agressivité qui convient. Moi, je suis stupéfait de voir que la gauche, est, finalement, c'est un gentil chaton pour l'instant dans cette campagne. Il n'y a pas de griffes.
On
a,
Philippe,
la gauche, c'est quand même un boulevard.
Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est pas mal dans l'agressivité, l'ego.
Elle est bien dans l'ego, l'agressivité aussi, et elle a su faire à Paris l'union avec des gens qui ne sont pas faciles hein, quand même, qui sont un petit peu radicaux, et avec cette gauche qui grignote et qui pose problème, qui est la gauche identitariste, qui va jouer sur les minorités, etc.
Yannick Halimi, vous avez écrit un papier ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, sur Anne Hidalgo pour 2022, elle y pense réellement?
Ah, elle y pense, mais elle dit évidemment que c'est pas à l'ordre du jour. De toute façon, c'est un peu trop tôt. Et elle cumule pas mal d'atouts. Elle fait effectivement, comme le disait Philippe, au niveau local. Je ne sais pas si Philippe parlait d'Anne Hidalgo, mais en tout cas, au niveau local, c'est vrai qu'il y a des rassemblements et des politiques écologistes et socialistes
À Bordeaux, à Marseille.
Voilà. Bon, alors on voit qu'il y a quelques tensions, notamment à Paris. Mais à Paris, elle y arrive. Alors, elle est effectivement extrêmement contestée, clivante. Il n'empêche que les Parisiens l'ont tout de même élue confortablement il y a quelques mois. C'est une femme, ce qui compte aussi également de nos jours dans une course à la présidentielle. Mais par exemple, Anne Hidalgo est sur une ligne sociodémocrate. Et elle aura beaucoup, beaucoup de mal à faire si, bien sûr, elle arrive à un mandat national, à faire une sorte de jonction avec les insoumis mélenchonistes tels qu'ils sont aujourd'hui.
Et on verra effectivement si ce qui existe déjà au niveau local arrive à se répliquer ou pas au niveau national. Nul doute en tout cas qu'on va beaucoup en entendre parler et en reparler de cette idée de candidature unique à gauche d'ici un an et demi. On débat de l'actu jusqu'à 19h avec les grandes voix du week-end. Dans un instant, la direction les États-Unis où, toujours atteint a priori par le Covid, Donald Trump reprend sa campagne ce soir. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Je le disais donc en titre, Donald Trump reprend sa campagne présidentielle ce soir aux États-Unis. Discours sur la loi et l'ordre, son thème favori du moment, au balcon de la Maison-Blanche, devant plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de partisans qui seront rassemblés en contrebas. Donald Trump qui a assuré hier en interview qu'il se sentait beaucoup mieux. Mais au fait, lui demande-t-on sur Fox News, est-il toujours positif?
Avez-vous été retesté?
J'ai été retesté. Je n'ai pas encore reçu les résultats ou quoi que ce soit, mais j'ai été retesté. Et je sais que je suis plutôt tout en bas de l'échelle ou sans trace du virus.
Et quand sera votre prochain test?
Je ne sais pas, probablement demain. Ils me testent tous les deux jours, mais c'est vraiment descendu à un niveau maintenant qui est super. C'est super que c'est disparu.
Voilà, il n'a pas les résultats, il ne dit pas qu'il est négatif, ce qui laisse à penser qu'il est donc positif. D'ailleurs, les médecins de la Maison-Blanche n'ont pas démenti ce point, même s'ils disent qu'il peut repartir en campagne. Il va pouvoir aller au bout de cette campagne, Laetitia Krupa?
Ah bah ça, seul Dieu le sait. Hein. On est aux États-Unis, donc c'est pour ça que j'invoque Dieu. J'en sais rien, je ne sais pas du tout. De toute façon, vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas, absolument pas faire confiance ni à Donald Trump, ni à ceux qui l'entourent. Donc, on verra bien. Lubris, c'est sa marque. Donc, oui, il nous a fait une consultation médicale sur Fox News. Il a pris 2 heures d'antenne sur une radio dans une émission ultra populiste, raciste. Voilà, avec vraiment des propos qui sont choquants hein, pour un chef, en tout cas un président des États-Unis. Donc c'est du Trump. Alors après, il faut rien prendre au pied de la lettre, tout écouter et voir aussi qu'il décroche sévère dans les sondages à cause de sa politique face au coronavirus.
Face au COVID. Et justement,
donc est-ce que ça, est-ce que finalement ce sera le boulet qui l'empêchera de retourner, de rester à la Maison-Blanche.
C'est ce qui semble être le cas dans certaines études d'opinion qui lui donnent entre 6 et 14
Exactement.
Points de retard selon les sondages sur Joe Biden. En tout cas, positif ou pas, Jannick Halimi, il semble avoir retrouvé un peu de vigueur, de forme. Il a donné une interview de marathon de 2 heures la nuit dernière où son bilan a été loué, effectivement, sur Fox News notamment. Renverser cette tendance en 3 semaines, sur le bilan économique notamment, est-ce que c'est encore possible ?
Je pense que c'est extrêmement compliqué parce que le pays est un de ceux les plus touchés par la crise sanitaire et la crise économique a aggravé la situation de zones entières qui étaient déjà extrêmement touchées par les crises successives de l'industrie depuis des décennies. Et il se trouve malheureusement pour Donald Trump, comme le disait Laetitia, que... la façon dont il a géré la crise sanitaire de façon, on va dire, un peu nonchalante aux États-Unis a fait que ceux qui ont été les plus touchés de façon économique et sociale, surtout par cette façon, encore une fois, un peu légère de traiter la crise, et puis de toute façon, des conséquences négatives de la crise, quelle qu'elle soit, même si les gouvernants l'ont bien traité ici et là, il y a une crise économique un peu partout. Bref, ce sont dans ces fameuses Rust Belt, vous savez, les zones des anciennes industries, pardonnez-moi.
Des États du Midwest, notamment, les États industriels, le Wisconsin, le Minnesota.
Exactement, dans lesquels font partie d'ailleurs les fameux États swing states, là où peut se jouer encore
l'élection.
L'élection. Il se trouve que le gros des électeurs de Donald Trump se trouve dans ces zones-là. Et la deuxième catégorie d'électeurs qui avaient beaucoup voté en 2016... Donald Trump,
il y a les cols bleus, les zones rurales.
Oui, et je veux parler aussi des personnes âgées. Beaucoup
qui
de personnes
sont
âgées
frappées par le
qui
COVID.
Sont bien évidemment, eux aussi, touchées par le Covid. Donc il y a deux raisons de fond, au-delà de la personnalité du monsieur, deux raisons de fond électorales qui pourraient faire que la courbe que vous indiquez, négative pour Trump, ne se redresse pas d'ici... quelques semaines.
Rapidement, Philippe Moreau-Chevrolet, en une minute, le deuxième débat qui était prévu la semaine prochaine, jeudi 15, a été annulé. C'était le seul débat où les électeurs devaient pouvoir poser directement des questions aux candidats. Ça va l'aider, Trump, de ne pas être interpellé publiquement, justement, par une mère de famille endeuillée ou un col bleu au chômage ?
Ça, c'est certain. Et puis, je pense quand même que ça va davantage aider Biden, qui a plutôt bien réussi lors du premier débat. Et je pense qu'il n'avait pas vraiment intérêt à se frotter à Trump, qui, dans ces cas-là, est un peu désespéré et aurait pu, par sa présence physique, par son intimidation même physique, aurait pu le déstabiliser peut-être. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour Biden que ce débat n'ait pas lieu. Pour Trump, je suis d'accord que les choses ne prennent pas une très bonne tournure. D'abord, on ne sait pas ce qu'est vraiment son état de santé, puisque tous ses médecins ont signé ce qu'on appelle des NDA, des Non-Disclosure Agreements, c'est
des clauses de confidentialité.
Donc on ne sait pas en réalité quel est son véritable état de santé et on ne sait pas s'il est contagieux ou pas, accessoirement. Et il est en train de perdre des voix, notamment dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui font l'élection aux États-Unis. Donc pour la première fois, on commence du côté démocrate à être vraiment optimiste. Après, il faut faire attention parce qu'à la même époque, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante
avec
contre
beaucoup
Trump.
D'avance. Et effectivement, on sera en reportage dans les semaines qui viennent aux États-Unis sur Europe 1. Tous les matins, on vous tiendra informé évidemment des suites de cette fin de campagne qui s'annonce absolument haletante. Merci à vous trois, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Jannick Halimi pour vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos analyses. Sur cet état de la gauche française et cette campagne invraisemblable aux États-Unis. On vous retrouve demain pour les grandes voix du dimanche. Le journal de 19h dans un instant.